Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Merci de me retrouver pour cette nouvelle émission des Voix du Scénarium. Ce soir, nous allons repartir dans l'espace, dans les sombres recoins, poursuivis par une terreur, une créature surnaturelle. Je parle bien entendu d'Alien, publié par Arkham Asylum. Nous y retrouverons les voix de Jonathan, Alice, Thierry et Cyril dans leurs rôles respectifs. Oui, ce scénario est la suite du précédent qui avait été interrompu. Et oui, parce que je sais que, je fais prévu de faire un scénario court et que malheureusement, je n'y arrive pas. J'aime bien mettre les choses en place, qu'elles prennent un peu de temps pour avoir plus d'impact. J'espère que cela vous plaira. Juste avant de partir dans l'insondable espace, je vous invite à écouter une interview de Mano Kanté qui nous parle de son jeu quantique. C'est une interview qui sera diffusée en plusieurs parties comme à notre habitude. Je vous laisse en compagnie de Mano Kanté. Est-ce que tu peux te présenter?
Alors bonjour Seb, je suis Mano Kanté, l'auteur d'un jeu de rôle qui s'appelle Quantique, comme la physique quantique mais avec un S. Il s'appelle Quantique et donc le sous-titre c'est Réalité altérée. Voilà, il est sorti là au mois de juillet et on a en même temps fait une maison d'édition qui s'appelle Nice Creadream c'est le premier jeu qui est édité par la maison.
Comment en es-tu arrivé dans le jeu de rôle?
Oh bah alors là ça a commencé dans le train à vrai dire avec les livres dont vous êtes le héros. Je savais même pas que ça existait le jeu de rôle donc. On était quelques-uns, puis il y en a un qui nous a sorti un livre, donc livre dont vous êtes le héros, où en fait normalement il n'y a qu'un seul héros et on lit l'histoire et on passe de paragraphe en paragraphe en allant dans des pages numérotées qui renvoient à d'autres pages numérotées. Et du coup, il a dit, bon, bah, ça vous dit de jouer à plusieurs? Donc, on était à 4 ou 5, là, à jouer tous le même personnage. Et puis, on décidait de si on allait à droite, à gauche, si on ouvrait la porte ou si, voilà, on ouvrait le trésor. On faisait ça parce qu'on était dans le train, il y en avait pour une dizaine d'heures. Donc, du coup, on a fait des livres comme ça. Et donc, bon, bah, comme j'avais trouvé ça très sympa, un peu plus tard, je suis tombé sur un moniteur qui m'a dit oh, on va faire une partie de jeu de rôle. Bon, cette fois-ci, je savais pas trop ce que c'était. Puis il a improvisé avec un D4 faces quoi. Et puis il a commencé à raconter des histoires. J'ai trouvé ça génial. Et un peu plus tard, je me suis mis au vrai jeu de rôle quand j'ai découvert que bah qu'il y avait des livres qui existaient. Donc voilà comment je m'y suis mis.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pro, ta formation?
Alors mon job d'origine, j'ai eu plusieurs jobs. Mais bon, je pense pas que ça soit vraiment d'un intérêt majeur. Par contre, bon, comme je m'y connais pas mal en gestion, j'ai aussi développé des compétences de graphiste et aussi bon, tout ce qui est mise en page et tout ça. Donc, ça fait plusieurs années que je suis là-dedans et bah, j'ai réuni toutes mes compétences, à vrai dire. Et ça m'a permis, bah, du coup, de pouvoir bien travailler sur le jeu. D'avoir bon après aussi en termes de compétences bon j'ai une collection de bandes dessinées qui peut faire peur un peu à la FNAC par moment suivant certaines FNAC donc du coup bon voilà j'ai l'habitude de voir différentes illustrations etc et puis j'ai des copains qui sont illustrateurs professionnels en fait. Donc, qui sont aussi rôlistes et donc, en fait, on a réuni toutes nos capacités pour mettre en place ce projet. Voilà, et du coup, ça a pas mal marché. On a fait un crowdfunding, donc un financement participatif où les gens ont répondu présent. Donc, grâce à ça, on a eu le financement, donc on était très contents. Et puis, bah voilà, on s'est tous mis à travailler, hein. Les illustrateurs, voilà, j'ai un autre copain qui écrit des scénarios. Et donc, du coup, tous ensemble, voilà, on a réussi à monter le projet.
Et comment est né ce projet?
Ah bah, il est né entre copains, voilà, c'est comme pas mal de jeux, en fait, hein. On a commencé à jouer à différents jeux, tout ça. Puis, bon, moi, j'aimais bien la science-fiction. Du coup, je trouve que ça... Bon, j'aime bien aussi le médiéval fantastique, tout ça, enfin, d'autres domaines, mais la science-fiction, j'aimais bien parce qu'il y avait un esprit un peu critique de la société, ça permettait de se projeter dans le futur, et puis il y a ce côté science que je trouve très intéressant hein, de voir où l'humanité peut aller. Donc, bon, on s'est dit, tiens, on va faire un peu de SF, on va faire un peu de cyberpunk un côté un peu plus noir, etc., donc bon, on a commencé à jouer, puis au fur et à mesure, alors on est passé de scénarios en campagne, voilà, on a fait plein de scénarios, etc. Puis au bout d'un moment, donc ça c'était il y a très longtemps, donc c'était en 2002, j'ai commencé à créer le jeu. Et puis bon, au bout de plusieurs années, il y a un de mes amis illustrateurs qui a dit « Attends, moi je suis motivé, je trouve ça bien, si tu veux je te fais les illustrations ». Bon, écoute, ouais, on a qu'à essayer. Puis après, il y a un deuxième illustrateur qui m'a dit qu'il allait m'accompagner. Puis bon, etc. Donc du coup, il y a plein de gens qui se sont mis à être intéressés par le jeu. Puis au fur et à mesure, bah voilà, on s'est devenu un peu plus sérieux. On a fait un crowdfunding. Et puis là, aujourd'hui, on a pu le sortir. Donc on est assez content.
C'est pas trop stressant, un crowdfunding?
Alors, en fait, très stressant. Disons que c'est très dense, voilà, au moment de la... Au moment du lancement, voilà. Au moment du lancement, enfin, j'ai pas eu le temps de stresser pour me demander si ça allait marcher ou pas, parce que j'étais trop à fond dans, voilà, faudrait qu'on fasse ci, tiens, on va rajouter ça, tel truc. Donc voilà, c'est plutôt, en fait, on est très content quand on a atteint les paliers, quoi. Donc là, on est très content, voilà. Non, ce qui est le plus stressant, c'est de réussir après à bien tenir les délais, tout ça, c'est assez difficile. Donc, évidemment que, en plus, avec le Covid, donc, ça veut dire que tous les fournisseurs sont les cartonniers, donc c'est les jetons, on a des jetons. Il faut que les imprimeurs, que tout cela, ils arrivent à tenir les délais aussi. Et donc, avec le Covid, ça a quand même bien, bien freiné les choses. Il y a des entreprises qui étaient en berne. Hein. Donc ça, c'est plus ça qui est stressant. C'est-à-dire, on veut faire des trucs, mais on est coincé par les... Donc, c'est la partie édition, en fait. On est un peu coincé. Par exemple, à un moment, il y a un des illustrateurs qui était... qui a attrapé le Covid. Donc, du coup, il était en quarantaine. Il y a ses enfants qui devaient rester à la maison aussi. C'est un peu difficile d'illustrer en même temps de garder les enfants. Donc voilà, en fait, c'est les problèmes de la vie quotidienne qui viennent perturber un peu la production. Mais finalement, on s'en est tiré quand même. Hein. On a réussi à surmonter tout ça, puis on a sorti mieux.
Mais de quoi ça parle, Quantique ?
Alors bon, du coup, c'est un jeu cyberpunk et de science-fiction. Parce que en fait, le cyberpunk, on peut dire qu'il y a certains aspects du cyberpunk qui existent déjà de nos jours. Hein. Voilà, on est déjà un peu dans le cyberpunk. Donc, disons que la tendance générale de ce genre-là, hein, de ce sous-genre, on va dire, de science-fiction, c'est d'aller vers la science-fiction un peu plus futuriste. Donc là, on a un peu plus poussé le trait sur le jeu. Donc, on est en 2399, dans le futur de l'humanité. On est dans le système solaire. Et toute l'humanité, il y a plus de 30 milliards de néo-humains, hein, parce que l'humanité a disparu dans le jeu suite à un événement majeur. Il y a un astéroïde qui a essayé de percuter la Terre. Donc, toute l'humanité a colonisé le système solaire. Et il y a sur ces 30 milliards d'êtres humains, en fait, il y en a peut-être une centaine, on ne sait pas exactement le nombre, qui ont développé des capacités qui sont des capacités, ils peuvent altérer la réalité. Ils savent pas ni pourquoi. D'ailleurs, ils se connaissent pas entre eux. Et ils savent pas d'où ça leur vient. Donc ça, c'est un des secrets du jeu, parce que dans le jeu de rôle, il peut y avoir des secrets. C'est ça qui est intéressant, de découvrir au fur et à mesure les dessous de l'histoire. Et donc c'est donc les joueurs, ils vont avoir ça. Ils vont avoir ces capacités d'altération du réel. Et puis c'est à eux de savoir d'où ils viennent, qui ils sont. Et aussi, ils se sont aperçus qu'ils étaient pourchassés par des entités qu'on appelle les quantiques. Donc qui les appelle les quantiques? Et que d'autres appellent les seigneurs de l'espace. Voilà. Donc, ils essayent de survivre, d'échapper à la chasse et de comprendre ce qui se passe. Pourquoi ils sont chassés? Pourquoi ils ont ces capacités? Voilà. Donc, c'est le pitch de base du jeu. Et après, il y a plusieurs entrées sur le type de personnage qu'on peut jouer. Donc, les thèmes qui sont proposés, c'est un jeu où on va proposer plusieurs thèmes au début du jeu. Donc, on peut jouer soit des mercenaires, donc c'est une entrée, on va dire, un peu plus connue, classique. Donc, tout le monde fait partie d'un groupe de mercenaires, tous les joueurs, quoi. Ils sont dans un bar spatial, et puis, c'est leur QG. Donc ça, c'est la première entrée. Deuxième entrée, ça va être les policiers spatiaux. Donc ils font partie d'une section spéciale de la police. Donc ça, c'est une optique plutôt enquête, on va dire. Hein. Voilà, ça dépend du type de scénario qu'on veut faire. Après, il y a une entrée politique et intrigue. Donc là, c'est plutôt les joueurs vont jouer les membres d'une maison hiérarchique, donc un peu comme Dune, on va dire, hein, un peu l'idée. Ou alors Game of Thrones, mais dans le futur, pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, maintenant, Dune, du coup, c'est revenu à la mode, donc c'est bien. Donc voilà, ils vont jouer, c'est pas mal à la mode, donc moi, ça me fait très plaisir. Après, il y a une autre approche qui est les pirates de l'espace. Bon, là, tout le monde joue un peu pirates de l'espace. il y a une approche qui est un vaisseau spatial, transport interplanétaire, c'est un peu un Faucon Millennium. Voilà, donc tout le monde est dans un vaisseau spatial et puis c'est un équipage, un petit équipage qui va essayer de faire du commerce plus ou moins honnête. Donc ça, c'est les cinq entrées principales. Mais après, si on veut, il y a un module, on va dire, qui permet de créer son propre axe. Donc, par exemple, ça serait possible de créer un gang en fait. Ouais. Les membres d'un gang qui sont dans les bas-fonds d'une station spatiale et qui luttent contre d'autres gangs pour essayer d'étendre son territoire. Voilà. Donc, ou alors ça pourrait très bien jouer un groupe militaire fait des interventions. Donc, là, les cinq entrées que j'ai évoquées au début, c'est les entrées qui sont proposées, mais après, le MJ peut, grâce au module de création, faire son propre axe d'approche. Voilà.
Les personnages qui altèrent la réalité sont-ils jouables?
Alors, les joueurs, ils vont... c'est-à-dire, c'est un secret. Non, en fait, ils vont tous incarner ces personnages. Absolument, dès le début. Hein. Donc, ils font partie des quelques centaines de personnes qui ont la capacité d'altérer le réel. Voilà, ils en font partie. Ouais, tout à fait. Et évidemment que le reste de la population... Alors, eux... On les appelle des éveillés. Voilà. Dans le jeu, leur nom, c'est des Novkanta. Voilà. Et tous les autres, en fait, tous les autres néo-humains sont des dormeurs. Donc, eux, ils n'ont pas du tout conscience que ça existe. Voilà. Ils ont leur vie quotidienne. Et du coup, c'est pas leur préoccupation première. Par contre, évidemment que les joueurs, c'est leur préoccupation première parce que. Ils ont ces capacités et puis ils sont pourchassés. Donc ça devient essentiel dans leur vie, en fait, au niveau de l'histoire.
Comment ça se joue, Quantique?
Alors, la mécanique de jeu, il y a une mécanique, on va dire, de base, qui est dans une approche un peu plus, narrativiste. Voilà. Après, il y a une mécanique qui est un peu plus, plus complexe pour ceux qui aiment bien les mécaniques un peu plus complexes. Donc, on va dire que c'est le niveau qui est le plus compliqué. Et puis après, il y a un niveau intermédiaire. Donc, pour la mécanique de base, je peux expliquer les règles. Hein. C'est des règles vraiment très simples et fluides. Donc, les joueurs vont utiliser un seul des 10. Ah, donc un G à 10 faces, un D à 10 faces. Et ils ont une compétence qui est entre 0, on va dire, hein, bon, c'est quand ils n'ont rien, et 10. Donc on va prendre un exemple. Si par exemple il y a deux joueurs qui sont en confrontation, on va dire qu'ils sont en train de se battre avec des épées fusion, par exemple, le joueur qui a. Il y en a un qui a. On va dire que tous les deux, ils ont 7 dans leur compétence pour se battre à l'épée. Voilà, très bien. Donc, ils sont face à face. Le premier jette son dé 10. Il a 7. Donc, s'il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il réussit. Et si jamais il fait au-dessus de 7, donc 8, 9 et 10, il rate son coup. Voilà. Donc, et l'autre en face, il fait la même chose pour parer le coup. Donc, le premier joueur, il jette. Si jamais il fait, 6, ça lui fait 6 réussites. Donc, c'est un bon score. Voilà. Puisque, bien sûr, que 6 réussites, c'est mieux que 5 ou que 4. Voilà, donc le premier, il fait 6 réussites. L'autre en face, il va essayer de parer le coup. Donc, il jette son dé, il fait 2 réussites. Bon, celui qui a fait 6, c'est plus que 2, donc il a réussi, il a porté le coup. Et ensuite, donc le coup est porté, c'est simple. Et ensuite, on fait les dégâts qu'a fait l'épée. Donc, on va dire, si l'épée, elle fait 4 de dommages, donc l'épée, il n'y a aucun dé à jeter, elle fait un chiffre fixe. Hein. Donc si elle fait 4 de dommages, ça fait 4 de dommages de l'épée, plus, vous vous rappelez, elle a fait une réussite de 6, donc 4 plus 6, ça fait 10 de dégâts qui sont enlevés au point de vie. Voilà, tout simplement. De l'épée. Voilà. Et donc, l'avantage de ça, c'est que c'est très fluide, en fait. Hein. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de calcul à faire, je jette, je lis le dé. Bon, zéro calcul. Le seul calcul, c'est au moment des dommages. Donc, j'additionne un dé et les dommages. Bon, ben voilà, c'est, ça permet de fluidifier. Il n'y a pas une quantité grande de dés qui font perdre quand même du temps, hein, où on doit les, ou alors des quantités de dés qui sont assez importantes, on va dire, je sais pas, 10 par exemple, où je dois en classer certains d'un côté, d'autres de l'autre. Ça fait un peu perdre du temps. Tandis que là, à la simple lecture avec zéro calcul, bah, c'est très fluide. Et l'avantage, c'est que ça donne un côté très immersif. On n'est pas obligé d'arrêter l'histoire, même si c'est de manière courte, hein, on n'est pas obligé d'arrêter l'histoire pour faire des calculs et sélectionner des dés d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est la règle la plus simple de base. Voilà. Après, il y a une particularité donc, qui est au centre du jeu. Donc ça, c'est la première règle, on va dire, hein, tout simplement. Hein. Voilà, je jette, et puis je sais le nombre de réussites que j'ai faites. Je compare à l'autre.
C'est la fin de la première partie de cette interview de Man en Comté que nous aurons plaisir à retrouver la semaine prochaine pour qu'il continue de nous parler de son jeu. Et je vous propose de faire une petite pause musicale avec Lords of Acid, Deep Sexy Space, un morceau qui est plutôt punchy par rapport au scénario qui va venir après. Sur le 101.5 de Radio G, vous venez d'entendre Lords of Acid et Deep Sexy Space. Sexy et profond, l'espace, pas vraiment, puisque nous allons retrouver les voix de Jonathan, Alice, Thierry et Cyril dans une partie d'Alien. Je fais un petit résumé de l'épisode précédent. Nos chères voix sont dans un vaisseau commandé par Hans Kaiser, le capitaine de l'Ouroboros, un petit vaisseau qui fait des navettes régulières pour réapprovisionner une petite planète minière et surtout un labo de recherche qui est sur cette planète. Ils font des cycles différents et toutes les semaines réapprovisionnent en nourriture et font de la relève d'équipage. Après un tout petit accident, savoir ils se sont pris quelques météorites qui passaient par là, ils se sont crashés méchamment sur le sol de la planète, à plusieurs kilomètres de la base qu'ils devaient réapprovisionner. De fil en aiguille, ils ont eu quelques péripéties, que je vous invite à écouter si vous n'avez pas écouté les émissions précédentes, mais également une grosse explosion et la perte de beaucoup de membres d'équipage. Nous les retrouvons en fâcheuse situation. Alors, je suis en compagnie de Cyril, qui joue Hans Kaiser. Est-ce que tu peux te présenter ?
Je suis donc Hans Kaiser, le capitaine de l'Europa Ross, et je viens de perdre mon vaisseau dans un crash lors d'une mission d'approvisionnement d'une mission extérieure de la Welland Company.
Ok, une mission qui a été donnée par la Welland. Welland qui est représentée par Burke, joué par Thierry.
Absolument. Je suis donc Ridley Burke, agent de la compagnie. L'important est que l'approvisionnement arrive à bon port et que la mission soit atteinte.
Ok. Dans les membres d'équipage de l'Ouroboros, nous avions La Chance.
Alors moi, Lucien La Chance, donc je suis le technicien du vaisseau, étant donné que ce vaisseau est actuellement éparpillé sur environ un petit kilomètre carré, je me demande encore à quoi je sers. Par contre, j'ai toujours pas été payé.
Et pour superviser... Et pour superviser et chouchouter un peu tout ça, nous avions Rivers, joué par Alice.
Oui, le crash, ça a vraiment été un moment pas joli. On s'est retrouvé à avoir beaucoup de choses et comment dire, je sais pas par quel bout prendre tout ça, au sens propre.
On va faire une petite ellipse temporelle suite à la fin de la partie précédente. Vous aviez survécu à une explosion due à des bonbonnes d'oxygène sous pression et vous aviez sauvé in extremis Arins, le pilote qui avait eu un bras amputé lors de la chute. Lors de cette explosion, votre rover d'exploration s'était retrouvé basculé sur le côté. Vous avez réussi tant bien que mal à le relever avec l'aide de Jones, qui était un des agents de sécurité qui devait relever les gens présents sur la base. Et puis vous avez commencé à vouloir rejoindre la base à quelques kilomètres de là. Mais la chute du rover a provoqué une fuite de liquide. Et très rapidement, le rover perd de la puissance. Qu'est-ce que vous faites sur cette planète absolument inhospitalière et très froide ?
La chance. Donc j'arrête le rover. Jetez un œil et réglez-moi ce problème de fuite.
Bien, capitaine, je vais essayer, mais vous savez que mes outils sont restés principalement sur le vaisseau. Hein.
Il y a sans doute un kit de secours au niveau du rover.
D'accord, parce que essayer de réparer un réservoir de carburant avec une torche à plasma...
Pendant que vous discutez, nous perdons du fluide. Dépêchez-vous.
Bon, ben, du coup, je vais descendre du véhicule, je vais jeter un œil à ce qu'il y a en dessous, déjà, pour voir qu'est-ce qui se passe exactement.
Ok. Donc, vous immobilisez le véhicule, tu descends et tu essaies de repérer un peu l'endroit où se passe, d'où peut provenir la perte de puissance et le liquide.
C'est ça.
Tu me fais un jet de Comtech.
C'est échoué.
Ok. Donc tu vois que le liquide passe par plein d'endroits. Il s'est un peu éparpillé et il y a une fuite qui doit être quand même assez importante. Mais tu n'arrives pas à identifier d'où elle vient.
Capitaine, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle. Le véhicule est foutu. On est encore à quelle distance de la base ?
Il y a encore peut-être 1 ou 2 kilomètres.
La Thierry ? Compagnie sera récompensée ceux qui font bien leur travail.
Bon, bah, j'essaie de faire une réparation à l'aveugle.
Après, tu peux forcer ton jet.
Est-ce que je peux éventuellement
donner
un coup de main ?
Oui, bien sûr.
Ok.
Descendez du buggy avant.
Je descends.
Donc, je vais tenter le coup. Du coup, c'est lui qui fait le jet et je lui donne un bonus.
Tu lui donnes un dé de bonus.
Tout le monde descend.
Alors, ça va être un nouveau jet, vu ce que tu files un coup de main.
Le temps de réparer.
Ça va pas être un jet de stress, là. C'est pas un jet forcé.
Il n'y a pas de stress. Ah non ?
Tu peux refaire le jet avec un dé supplémentaire.
D'accord.
Rivers et Jones, aidez Arins à descendre. Le temps que la réparation soit faite.
Non, ça ne marche pas.
Donc vous n'arrivez pas à identifier la fuite, vous êtes mis à plusieurs. Et puis, vous vous rendez compte que le liquide coulait et qu'il commence à se figer. Et puis petit à petit, vous vous rendez compte que effectivement, même vous, vous commencez, malgré les combis, à sentir le froid. Vous regardez un peu autour de vous. Et puis vous vous rendez compte que il y a une espèce de... Comme s'il y avait une espèce de neige qui commençait à tomber. Et le froid a l'air d'être plus intense qu'il y a quelques instants. Les vents commencent à être beaucoup plus rapides. Et vous pensez qu'une tempête se prépare.
Bon, il faut qu'on y aille.
Est-ce qu'on finit à pied?
Il nous reste combien? Un kilomètre, c'est ça?
Un peu plus.
Un peu plus. Allez, on y va.
On peut pas
faire avancer le buggy, de toute façon.
Ah, j'ai dit qu'il perdait de la puissance, j'ai pas dit qu'il s'arrêtait, hein.
Continuons le plus possible avec le buggy, alors.
Ouais. On ira peut-être pas au bout, mais...
Ce qu'on peut gagner comme temps, ce sera de gagner.
La chance, commencer à réfléchir comment fabriquer une civière pour Arins.
Bien, capitaine.
Ok. Alors, Arins, je statue un peu sur son état. Il a repris un peu de poil de la bête. Vous aviez fait une cotérisation d'urgence. Vous aviez réussi à faire quelque chose. Effectivement, sa cheville est toujours un petit peu en vrac, vu qu'il était coincé et que vous avez forcé un petit peu dessus quand même. Mais il sera capable de marcher, mais en boitillant. Il est conscient.
Ou d'être porté par Jones, par
oui,
exemple.
Oui, il peut être soutenu, oui. On t'a repéré quand même que c'était la batterie qui fuit.
D'accord.
Vous repartez avec le buggy, effectivement, vous sentez que la puissance peine. Mmh. Il va quand même plus vite que si vous marchiez à côté, mais petit à petit, vous sentez sa vitesse qui décélère. Des fois, il y a des petits calages, il repart par à coup. Effectivement, c'est la batterie qui est en train de rendre l'âme, quoi. Et puis, vous finissez par ne plus pouvoir le redémarrer. Mais vous voyez au loin les lumières de la base. Il vous reste à peu près 500 mètres à parcourir.
Allez, on y va, on prend un maximum de matériel et on se bouge.
D'accord. C'est ça.
Je pensais soutenir Arin est capable de marcher, c'est bien ça?
Il va boitiller.
D'accord, bah, je vais le soutenir au niveau de son bras entier. C'est voilà. Plus pratique.
Vous avez encore un bras disponible, prenez ça.
Donc voilà, je vais le supporter et l'aider à marcher le plus vite possible.
Voilà. Ok. Sur le matériel que vous emmenez, qu'est-ce que vous priorisez?
Ah bah moi, je fais prioriser le matériel de la compagnie.
Bah c'est tout le matériel est de la compagnie.
Ouais,
hein.
Alors qu'est-ce qu'on a comme matériel, du coup?
Il y a vous le noyau.
Le noyau est hyper important.
Le noyau, vous avez des outils, vous avez de la nourriture. Il y a quand même quelques trucs qui étaient disponibles sur le rover. Ça...
Le noyau, évidemment. Les matériels à acheminer à la base sont très importants. Après, la nourriture, il y en aura certainement à la base. On pourra s'en débrouiller. Quelques équipements éventuellement, mais il y en aura à la base. Enfin, je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas à la base. Mmh. Hein?
Au niveau des outils, je vais juste garder ma découpeuse à plasma sur moi, mais c'est vrai qu'ils ont forcément un atelier sur place.
Vous pouvez mettre ça dans votre ceinture.
Ok. Hans,
On est d'accord que le noyau, c'est pas forcément très lourd.
Ça représente une grosse valise, c'est un rack en fait, ça va faire à peu près la taille de la platine qui est là.
Oui, mais en termes de poids
C'est une valise qui va faire 1 kg, 1,5 kg.
Je vais prendre ça.
Ok. Rivers,
Dans le buggy, il y a une trousse de secours.
Oui.
Une trousse d'urgence, donc évidemment je la prends. Et puis... je vérifie qu'il y a dedans également... En quelque sorte de quoi prendre des notes, parce que on est quand même dans un environnement et dans une situation un peu chaotique, je veux pouvoir compiler quelques infos sur ce qui nous arrive. Ça a l'air bête, mais ça me vient en tête comme ça.
Ok, t'as un cahier, un crayon, et souvent c'est des choses que vous utilisez presque plus, mais souvent t'as des pads en fait sur lesquels tu peux prendre des notes numériques. Les batteries sont très 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 longues sur ce genre de matériel. C'est plus souvent cassé que et c'est stocké dans des espaces.
Et puis suivre la façon dont Arins va se remettre, dont ça va évoluer.
Ok. Donc vous commencez à marcher. Effectivement, le froid est saisissant. malgré vos combis. Vous rendez compte que la température, elle doit descendre au-delà du supportable, au-delà de ce que les combis peuvent encaisser en extérieur. Vous arrivez sur une espèce de base qui est composée de plusieurs îlots avec des tunnels. Vous la voyez de loin, c'est assez... Comment ?
C'est des dômes, en fait.
Ouais, c'est des dômes hexagonaux. Et il y a plusieurs dômes, en fait, qui sont reliés les uns aux autres. Et au moment, à l'endroit où vous arrivez, sur la droite, vous avez une espèce de dôme un peu plus grand avec une porte qui est semi-ouverte, une porte qui a l'air d'être coulissante, sur laquelle il n'y a pas de lumière. L'autre partie a l'air d'être éclairée. C'est un dôme un peu plus petit qui mesure une dizaine de mètres de large et sur lequel vous allez pouvoir éventuellement vous engouffrer. Il y a une espèce de porte de sas devant. Comment vous présentez à ça?
Je pense arriver plutôt vers celui qui a de la lumière, parce que lumière dit énergie, dit chauffage. Donc je pense moi me précipiter avec Karine vers le sas et essayer d'enclencher simplement l'ouverture du sas.
Ça va tout le monde?
Mm-hmm.
Ok. Tu as une grosse manivelle, c'est exactement le geste que tu as fait. Tu actives un espèce de chantement en fait, d'air qui s'échappe, ça coulisse sur le côté, et vous rentrez à l'intérieur. Il y a de la lumière, il y a plusieurs bancs, il y a des combinaisons qui sont accrochées, il y a un petit peu de matériel, il y a des godasses, il a l'air vraiment d'être une sorte de vestiaire de sas avant de rentrer. Vous pénétrez à l'intérieur, tout de suite vous sentez que la chaleur déjà, ça vous fait un petit peu de bien.
Enfin.
Ah
oui.
Je me tourne vers Arin, je fais, il y a des combinaisons, filez-en une avant de mourir de froid.
Vous pouvez m'aider?
Je crois que vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul.
Ouais, c'est déjà essayer de fermer une fermeture éclair avec une seule main.
Il lui manque un bras.
C'est son problème, il n'avait qu'à pas cracher le vaisseau. Donc je pose la mallette dans un coin.
Ok.
Et je commence à explorer un peu. Arin.
Donc je vais aider Arin en me tournant vers Kaiser et en disant mais il est important que... Nous avons besoin de la force de chacun et si nous ne sommes pas capables de nous entraider, alors nous ne valons rien aux yeux de la compagnie. Enfin... Et donc je vais remonter sa fermeture éclair moi-même.
Ok. Là, vous vous rendez compte que les combis vont vous porter vraiment chaud parce qu'elles sont faites pour lutter contre les températures très fraîches. Et là, vous allez avoir une température à peu près normale. Donc, Arin, ça n'a pas l'air d'être chaud pour se mettre une combi en plus. Vous êtes en train de débattre un petit peu de tout ça. Et puis, je refais une petite description de la pièce. Vous êtes sur des pièces qui sont vraiment hexagonales, sur lesquelles vous avez des bancs en fer. Vous avez quelques vestiaires sur les côtés, avec à l'intérieur des tenues plus ou moins propres. Il y a des choses qui sont pliées, qui ont l'air d'être clean. Beaucoup de chaussures, des combis d'extérieur. Il y a des combis renforcés. Les chaussures, c'est pareil. Vous avez des chaussures qui ont l'air d'être des chaussures de sécurité, des bottes de sécurité. Quelques casques, des lampes torches, et puis un peu de matériel. Vous avez quelques petites pioches, vous avez des petits trucs qui sont divers et variés dans ce secteur-là. Et en face de vous, vous avez une autre porte qui a l'air de fonctionner en digital.
Je m'approche de la porte, moi.
Ok.
J'essaie de mettre ma main.
Ok. Alors c'est pas un scanner à main, c'est vraiment t'as des codes.
Ah oui, il y a un code. Bah, est-ce que j'ai un code de la compagnie qui me permet de servir de passe-partout dans ce genre de situation ou...
Alors t'as un code de la compagnie qui sert de passe-partout. T'as jamais eu de porte qui t'a résisté, mais c'est pas garant.
Ouais, j'essaye.
Ok. Tu tapes ton code. La porte coulisse. Et là vous arrivez dans une espèce de couloir. Et le couloir a l'air d'être assez lisse, c'est chauffé. Vous avez des petites lumières qui s'allument au fur et à mesure que vous avancez. Un truc qui vous choque, c'est parce que vous avez été habitué à beaucoup de vaisseaux, c'est que vous n'avez quasiment aucune canalisation à l'intérieur, aucun câblage intérieur. Ça fait, habituellement, vous avez toujours des tubes, des choses qui parcourent. Là, quasiment aucun.
C'est moderne ici.
C'est beau, ça a l'air bien fait.
Vous commencez à...
Ils sont tous foutus en extérieur, quelle bonne idée.
Alice ?
Est-ce qu'on voit des gens dans cet espace ?
Alors pour l'instant, non. Vous avancez dans l'espace suivant. C'est un espace qui a l'air d'être, on va dire, plus propre. Vous avez aussi des vestiaires, mais vous avez c'est des vestiaires qui sont plus clean. Les fringues à l'intérieur ont l'air d'être toutes bien pliées. Il y a un espace avec une petite douche. Ça a l'air vraiment d'être un truc un peu plus propre.
Bon, on peut essayer d'en profiter pour faire une petite halte, se laver un peu.
Se changer.
Surtout à Rins, là.
Nettoyer ses plaies.
Oui, voilà.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a une zone où on peut l'allonger, un banc ou quelque chose ?
Il y a quelques bancs sur le côté. Il y en a un petit peu moins que sur la partie d'avant. Au niveau taille, la pièce fait à peu près la même que celle d'avant.
D'accord.
River, aidez-moi à l'allonger, s'il vous plaît.
Oui, merci, on va faire ça.
Vous êtes en train de l'allonger, tu es en train de t'apprêter à te doucher, du coup.
Oui.
Et le sas qui est juste en face de vous s'ouvre. Ah. Vous avez une femme à la peau assez mate qui a une espèce de chignon. Alors ça fait un petit peu bizarre, ça fait comme une tresse mais qui aurait été rabattue sur le dessus. Je sais pas si...
Alice le fait de temps en temps.
Elle a l'air très stricte. Sa combi a l'air d'être plutôt... c'est entre la combi et l'uniforme. Et puis ce qui vous fait dire que on pourrait peut-être l'écouter, c'est qu'elle a une arme en main.
Argument recevable. Ah,
bonjour.
Vous êtes qui, là ?
La compagnie. Équipage du Ouroboros.
Bah, habituellement, vous nous prévenez quand vous arrivez ?
Vous n'avez pas été prévenu ?
Bah non.
On s'est craché.
La boule de feu à 1,5 km d'ici, c'était nous.
Ah, on l'a pas vu. On a un petit problème de senseur, en fait, ce qui fait qu'on a un petit souci de communication, là.
Encore du matériel qui dysfonctionne. Non, mais ça coûte cher, ça, encore.
Vous savez, avec les températures extérieures, il y a des moments où il faut qu'on puisse justement réparer. C'est pour ça que vous êtes là, à la base. Hein.
Oui.
Depuis quand vous avez des problèmes de capteurs comme ça ?
Bon, ça fait 2-3 jours.
Et vos problèmes de communication dont vous parliez ?
C'est qu'on doit avoir un souci avec l'antenne, donc tant qu'on ne peut pas la réparer, les senseurs ne fonctionnent pas. Et puis,
vous ne plaignez pas qu'on ne vous prévienne pas alors ?
On ne pouvait pas nous prévenir non plus.
Voilà.
Voilà.
Bon.
Rentrez. Je suis Robinson. C'est moi qui suis chargé de la sécu. Bon, je devais être relevé, mais je pense que c'est... Vous êtes tous là ?
Ceux qui ont survécu.
Si je peux me permettre, Madame...
Robinson.
Madame Robinson, voulez-vous que je jette un œil à l'antenne ? Je suis le mécanicien de l'Ouroboros.
Il n'y a pas d'urgence, du coup. Parce que nous servait principalement à vous contacter. Mais vu que vous êtes là...
Pour prévenir peut-être la hiérarchie de notre petit souci.
Il faudra qu'on puisse repartir.
Après,
mais on a le temps.
Je pense que ça va pas être le bon moment, mais mes collègues vont pouvoir vous dire ça.
D'accord. Bon, je finis de me changer. Personnellement, j'enfile une combinaison propre et je me nettoie un petit peu.
Je vous laisse vous changer. Servez-vous dans les vêtements qui sont là. Je vous laisse passer dans le dôme d'à côté et, dès que vous êtes prêt. Okay.
On a un grand blessé. Vous voyez, un bras en moins. Vous auriez un lieu de soins.
Ouais. On a un atelier médical. Je vais chercher le médecin.
Merci.
Oui.
Pardon, je suis le capitaine Kaiser. Je souhaiterais savoir combien vous êtes dans cette station.
Là, on est une dizaine à peu près. Je vais chercher le médecin, on voit ça après.
Oui, je voudrais rencontrer votre officier supérieur au plus vite.
Ouais. Il n'y a pas pour l'instant, mais je vais chercher le médecin. Je pense que c'est... prioritaire.
Merci, oui. Merci.
Ok. Ah, vous êtes médecin ?
Oui.
Ah, ok. Accompagnez-moi.
Oui, on a expédié les présentations, mais oui.
Donc, tu suis Robinson. Tu traverses une première salle, hop, qui est beaucoup plus grande, en fait. Là, c'est une salle qui a l'air... qui a l'air plus une salle fonctionnelle. T'as des tables avec des chaises réparties un peu partout. T'as une zone que t'as l'air d'identifier comme étant une cuisine. T'as quatre accès en comptant celui par lequel tu viens de passer. T'en as un en face, un de chaque côté. C'est très très classique. Et ça a l'air d'être la pièce de vie commune sur laquelle t'as une table qui a l'air un peu plus clean que les autres. T'as d'autres qui ont l'air tout ça. Ça a l'air d'être globalement assez sale. C'est pas très très entretenu. Vous traversez la pièce, vous prenez directement sur la droite, et là vous arrivez dans une espèce de salle où ça a l'air d'être. Donc à chaque fois que vous passez, changez de salle, vous passez par deux sas. Hein. Il y a un sas par couloir, et sur la droite, là tu as toute une zone en fait qui a l'air de correspondre à une partie médicale. T'as une espèce de civière sur le côté qu'elle relève tout de suite. Il y a du matériel médical dans le coin, et tu as un autre sas qui mène vers le haut, enfin au sud, enfin nord. Je suis perdu, c'est nul ça. Donc elle prend le brancard, elle le passe à travers les trucs. Elle te dit prenez ça dans tel tiroir et tel placard. Effectivement, t'as des petits placards. Tu récupères des bandes, tu récupères des poches de sang et quelques petites choses qui vont te permettre de faire d'être efficace.
Super, tout le matériel que j'ai pas dans la trousse de secours.
Tout à fait.
C'est bien.
Ça va bien compléter ta trousse de secours. Hein.
C'est bien.
Et vous traversez de nouveau la grande salle, et puis vous arrivez sur les deuxièmes sas pour faire ce que tu as à faire. Je t'écoute.
Mais je reviens vers Arint, qui est allongé sur un banc, hein, c'est comme ça qu'on l'avait installé. J'ouvre le vêtement, enfin la combinaison qui est là, je regarde déjà l'amputation de son bras, et puis je regarde globalement dans quel état il est, s'il y a d'autres plaies qu'on n'avait pas vues, si il est conscient, c'est ça?
Oui, il est conscient. Alors, ouais, il est très faible.
Ouais.
Je te fais un statut vite fait sur son statut médical. Il est très faible. Il semble avoir perdu quand même pas mal de sang. Mmh. Il a de multiples contusions et un gros hématome au niveau du torse. Tu penses qu'il a peut-être une ou deux côtes de cassé. Mmh. Mais globalement, hormis ces deux états spécifiques... Mmh. Il a l'air, le reste a l'air de bien fonctionner. Il y a toujours sa cheville qui est foulée, tordue, tu ne sais pas vraiment.
D'accord.
Sachant qu'il peut poser le pied dessus, donc tu es persuadé qu'il n'y a pas de fracture.
D'accord. Donc, le réhydrater, mettre la poche de sang, et puis le veiller à ce qu'il soit au chaud, et puis vu qu'il est semi-conscient et assez faible, caler un oreiller, un vêtement sous sa tête pour qu'il se repose. Et puis peut-être des antidouleurs ou...
Il y a des antalgiques justement qui peuvent compenser.
Ouais.
Au moment où tu es en train de finaliser ton diagnostic, tu as Robinson qui est sorti de la pièce, et tu as une femme un peu plus costaud, pas très grande, qui arrive, qui te fait je suis Rosie, c'est moi le médecin, faites-moi un statut et on va voir ce qu'on peut faire en plus.
Merci. En plus, c'est-à-dire,
je vais compléter votre diagnostic s'il y a besoin.
D'accord. Moi, ce que j'ai vu, c'est déshydraté. Comme vous voyez dans l'incident, il a perdu un bras. Il a perdu beaucoup de sang. Voilà, j'ai vu différents hématomes, différentes contusions. Il a sans doute des côtes cassées. Mais je vous en prie, continuez. Oui.
Ok. Alors, elle a regardé un petit peu au fur et à mesure que tu lui présentais les trucs. Elle fait, bon, on l'emmène dans la zone médicale. On va le sédater un petit peu, histoire qu'il puisse se remettre de ses émotions, et puis surtout qu'il souffre pas. Et puis, on va le couvrir. J'ai des couvertures plus chaudes là-bas. Il sera mieux que de rester dans le sas de nettoyage.
Oui, je connais pas vos installations, mais oui, je vous remercie. Oui.
Donc, elle te raccompagne. Elle vous a complètement ignoré. Et du coup, effectivement, les deux, Rivers et Rosie, repartent directement avec le brancard. Ils ont chargé Arins dessus et vous laissent tout seul.
Pendant qu'elles sont en train de parler, je me rapproche de Robinson et je fais... j'ignore quel poste vous occupez au sein de la station, mais... on a votre matériel dispersé sur un kilomètre. Je ne peux pas assurer que tout est récupérable, mais je, mais ils se répondent d'envoyer une équipe très vite. J'ignore quel effet le froid peut avoir. Et après tout, c'est votre réapprovisionnement.
Ok. Elle te regarde, tu sais, elle se pince la lèvre, mais tu penses que c'est pas quelque chose qu'elle fait beaucoup, tu sais, se mordit la lèvre du bas. Enfin, on venez dans la salle principale, on va vous expliquer, mais je pense que le matériel est perdu.
Si j'entends ça, moi je viens.
Elle vous fait signe de la suivre.
Donc je la suis.
Ok. Vous suivez tous et vous arrivez dans une grande pièce. Alors, je vais pas refaire la description, mais effectivement, c'est une grande salle commune avec plusieurs îlots. Un îlot qui a l'air d'être consacré principalement à préparer la nourriture. Un îlot qui a été. Un îlot, je peux parler, qui a l'air d'être plus consacré à la détente. Il y a quelques étagères avec quelques bouquins. Et puis le reste, c'est des petites zones. Il y a une table qui a l'air un peu plus propre que les autres. Mais sinon, c'est vrai que globalement, il y a de la poussière, il y a des petites taches de gras un peu partout. Ça n'a pas l'air d'être très bien entretenu.
Je passe le doigt sur les meubles.
T'as de la poussière, du crâne.
Je regarde. Je jette un regard noir.
Elle voit ton regard, elle fait « Oui, ben, on est occupé, on n'est pas nombreux, on n'a pas le temps de faire le ménage. »
Est-ce qu'il y a du café ?
Ouais.
On n'a pas le temps pour ça.
Je vous fais ça. Si, on va avoir le temps, vous inquiétez pas. Je fais venir tout le monde et on vous explique. Elle appuie sur son intercom. Est-ce qu'on peut se rassembler dans la salle commune, s'il vous plaît ? T'entends des diverses voix qui répondent. Donc et puis elle commence à préparer du café.
Je trouve un siège. J'imagine que ça fait une grande table avec.
T'as plusieurs grandes tables en fait. C'est une salle qui est quand même assez grande. Il y en a fait. Elle doit faire facilement ses 100 mètres carrés.
Ok, donc celle qui est la moins sale, je m'en approche et je m'installe je m'assieds péniblement.
Moi, je m'installe un peu trônant dans un coin de la salle, un endroit où on peut me repérer facilement.
Ok. Vous êtes à peu près au même niveau, en fait, parce qu'il y a une table qui est beaucoup plus clean, qui est un peu plus grande, sur laquelle il y a des trucs au milieu, il y a quelques appareillages qui sont dispersés, mais il y a vraiment une table qui a l'air beaucoup plus clean que les autres. Donc, bizarrement, c'est celle qui vous attire du premier regard.
Moi, j'essaie de trouver la bouffe dans les placards en attendant.
Ok. Robinson te dit, si vous voulez, on a des cookies qui sont par là. Elles sont un peu secs, mais ça devrait faire l'affaire avec le café.
Je me jette dessus.
Vraiment, s'il vous plaît.
J'avais oublié de signaler, avant de m'asseoir, j'ai confié la mallette du noyau de l'IA à la chance.
Ok.
Je suis payé pour ça ?
On verra ça plus tard.
Qu'est-ce que t'en fais du noyau ? Tu le gardes avec toi ? En cherchant le cookie ?
Je trouve un coin, un endroit, une étagère assez propre, puis je le range en fait. Je le garde pas. Ça pèse quoi ? Ça pèse dans les 10-20 kilos, non ?
Non, c'est un kilo 5, 2 kilos, c'est pas.
Ah non, je le garde avec moi alors.
C'est une grosse valise en fait.
D'accord, bon, je le garde avec moi et j'ai la valise dans une main et un cookie dans l'autre.
Ok. Robinson fait couler du café et puis elle commence à vous indiquer de vous asseoir et puis les autres vont pas tarder à arriver.
On est bien accueillis.
Effectivement, petit à petit, vous voyez plusieurs personnes qui arrivent. Un grand tout sec, un peu plus timide. Et très rapidement, vous avez une dizaine de personnes dans la pièce. Je vous propose qu'on s'arrête là pour la première partie. On a fait une trentaine de minutes. Laissons pour ce soir les voix représentées par Jonathan, Alice, Thierry et Cyril se remettre de leurs émotions dans un confort plutôt douillet. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver dorénavant en podcast sur le www.radio-g.fr, onglet Les Voix du Scénarium. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour arpenter et entendre à nouveau Les Voix du Scénarium.
www.radio-g.fr.
Short careers, I wonder if they harbor fears of quickly gaining way too much and slowly, slowly losing touch. Lovers having short careers, it's like they never use their ears to listen to the beating chests. They pound like elevated nests in the wind and the rain. It's just water. Their peers, their hearts leak blood like dropping tears. They beat themselves into a state, confused and lost without a mate. And lovers hide amongst their peers, yeah, the booze start drowning out the cheers. Cause when you're fucking with your fate, you can't take no one the first date in the wind.